Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie réussir dans la vie et que signifie échouer? Quelle est la différence entre la réussite et l'échec? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour échouer? Ce sont des questions banales si vous voulez, mais très importantes car chacun de nous, chaque jour, dans ce que nous faisons, ou bien nous réussissons, ou bien nous échouons. Ou bien nous faisons une chose avec succès, ou bien avec échec. Mais quelle est la différence? La différence est grande, c'est une question d'attitude, de détermination, de foi en Dieu, et de beaucoup de bonne volonté et beaucoup de persévérance. Lorsque vous commencez un projet, avez-vous en tête de finir ce projet? Ou alors, est-ce que vous avez des doutes dès le commencement comme quoi vous ne pourrez pas le terminer? Voyez-vous, dès le commencement, vous avez déjà formulé votre chemin. Lorsque vous avez un projet et que vous savez que vous devez le terminer, allez de l'avant avec force, avec espoir, avec détermination, avec persévérance, sachant que vous réussirez avec l'aide de Dieu. Mais c'est ça, il faut faire votre part. La plupart d'entre nous, nous faisons des choses, mais nous ne faisons pas notre part. Nous connaissons la base. Nous avons le fondement. Nous avons même foi en Dieu. Mais Dieu veut que nous fassions notre part. Et notre part, c'est avoir ce courage, cette force, ce désir, cette conviction de réussir. C'est ça la différence entre l'échec et le succès. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est positif dans sa façon d'aborder un problème même, ou bien dans sa façon de faire face à la vie. Beaucoup de gens font face à la vie d'une façon déjà échouée. Vous êtes déjà, je dirais, dans le camp de ceux qui n'ont pas réussi parce que vous savez que c'est difficile, vous savez que vous ne pouvez pas arriver, vous savez que vous n'avez pas la force, ainsi de suite. Déjà, vous êtes sur le chemin de l'échec. En tant que chrétiens, nous avons tous une mission. Cette mission, c'est exemplaire le projet dont je vous parle. Ou bien, dans cette mission, nous avons la détermination de réussir. Ou bien alors de dire, je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à l'appel de Dieu et faire ma part. Posez-vous la question, pourquoi Dieu vous a-t-il appelé? Parce que vous êtes plus beau que les autres? Non. Plus intelligent? Non. Alors, pourquoi Dieu vous a appelé? Dieu vous a appelé car il voit en vous la possibilité de transformer vous en tant qu'être spirituel un jour. Vous avez le potentiel, vous avez la capacité. Mais dès ce moment-là, vous devez faire quelque chose avec ce potentiel, avec cette capacité. C'est ça la différence. Je n'ai pas plus que vous, ou moins que quelqu'un d'autre. Nous avons tous les mêmes, je dirais, les talents nécessaires pour réussir dans les projets que nous avons. Ces talents sont différents, mais aussi les projets sont différents. Toutefois, en ce qui concerne la mission de l'Église, de Dieu, de proclamer l'Évangile, le royaume de Dieu avant que la fin n'arrive, Matthieu 24, 14 et 15. Le fait est ceci, voyez-vous, nous devons tous savoir que si nous sommes, nous, dans l'Église de Dieu, nous avons une mission à accomplir. Et cette mission est indispensable pour nous remplir de force, pour nous remplir de, je dirais, de consolation, de détermination, de conviction que nous arriverons. Mes frères et mes sœurs, examinez-vous vous-même, je vous prie. Lorsque vous vous levez le matin, quelle est votre attitude? Lorsque vous vous couchez le soir, quelle est votre attitude? Lorsque vous vous examinez à chaque instant de la journée, quelle est votre attitude? Négatif ou positif? Êtes-vous toujours convaincu que vous arriverez au but, ou bien au bout du travail que vous avez? Je parlais de la mission de l'Église. Le Christ a dit dans Matthieu 24, verset 15, que cette bonne nouvelle sera prêché à toute la nation en tant que témoignage. Témoignage, pas pour convaincre tout le monde. Et alors, dit-il, viendra la fin. Lorsque vous regardez autour de vous, vous désirez que les choses changent. Vous voulez un changement radical. Eh bien, cette fin, ce changement radical, dépend du travail que vous faites, du travail que je fais, et comment nous accomplissions chacun notre mission. Plus nous travaillons dur à la proclamation de l'Évangile, plus vite le royaume viendra. C'est un projet. Dans ce projet, nous avons tous la détermination de réussir. Il faut que nous réussissions. Vous savez quoi? Si moi, je ne fais pas ma part, Dieu me remplacera. Si vous ne faites pas votre part, Dieu vous remplacera. Quelle que soit votre part, ce n'est pas une question d'important ou non à vos yeux. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Et chacun de nous dans l'Église de Dieu, nous avons un travail à faire. Et ce travail est important aux yeux de Dieu. Une fois que vous avez ça, voyez-vous, en tête, vous pouvez travailler avec détermination pour réussir. Vous n'abandonnez pas. Mes frères et mes sœurs, n'abandonnez jamais un projet qui est juste et que vous avez commencé. Ne vous dites jamais « je ne peux pas ». Le « je ne peux pas » n'est pas, bibliquement parlant, valable si Dieu vous confie une tâche, car Dieu vous donne toujours les talents nécessaires pour accomplir votre tâche. Mais dès ce moment, vous avez le choix. Vous avez prendre la mauvaise direction, vous pouvez prendre quelque chose qui vous plairait davantage, ou bien vous détourner de cette mission, alors vous avez toutes sortes de problèmes auxquels vous faites face. Commencez-vous à comprendre. Je répète, le Christ nous a donné une mission. Cette mission est la tâche, la raison pour laquelle nous sommes appelés. Dans Matthieu chapitre 16, quelques versets que tout le monde connaît très bien, le Christ parle de son Église. Le Christ est venu établir son Église sur sa terre, et cette Église est un corps, le corps du Christ. Dans le corps du Christ, comme la Bible dit, on ne peut pas avoir des divisions. Chaque membre dans le corps du Christ, comme chaque membre dans notre corps humain, a une responsabilité. Vous, en tant qu'individu dans l'Église, vous avez une part à jouer. Moi, j'ai une part à jouer. Nous ne pouvons pas lâcher, nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas faire marche en arrière. Mais d'autre part, il y a Satan le diable qui voudrait que vous fassiez marche en arrière. Qui voudrait que vous vous découragiez. Qui voudrait que vous disiez « je ne peux pas ». Le « je ne peux pas » ne doit pas être dans votre vocabulaire en ce qui concerne la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Commencez-vous à comprendre. Je parle d'échec et de succès. Je parle de réussir et d'échouer. Chacun de nous, nous devons avoir comme but le succès, la réussite, et non pas l'échec. Mais je répète, beaucoup dépend de vous, de votre attitude. Ne pensez pas toujours à vos problèmes, mes frères et mes sœurs. Ne dites pas toujours pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose. Au contraire, dites-vous pourquoi ce que vous pouvez faire pour réussir. C'est ça la différence. Si vous avez en tête que vous allez pouvoir terminer ce travail avec l'aide de Dieu, alors, quels que soient les obstacles, allez de l'avant. Le matin, vous vous levez, peut-être vous êtes malade. Peut-être, dans la journée, vous avez des difficultés terribles, je sais. Ce sont des épreuves par lesquelles nous passons tous. Mais ces épreuves ne doivent pas nous faire échouer. Je disais que dans Matthieu 16, le Christ a fait une déclaration très importante. Il a dit qu'il est venu, lui, établir son Église sur cette terre, bâtir son Église. Il a posé aux disciples des questions en disant, que dit-on que je suis? Et Pierre, sous l'inspiration divine, a répondu, tu es le Christ. Et le Christ a dit, bon, Matthieu 16, verset 18. Ensuite, il dit, toi, tu es le petit Pierre, moi je suis le rocher. Sur ce rocher, je paraphrase maintenant, afin que vous compreniez ce verset, il dit, sur ce rocher, pas sur l'apôtre Pierre. L'église de Dieu n'est pas fondée sur l'apôtre Pierre. L'église de Dieu est fondée sur le rocher. Pierre était une pierre, comme on dit, un petit caillou. Le Christ est le rocher. Et le Christ a dit que c'est sur ce rocher que l'église de Dieu sera bâtie. Et dit-il, à les portes du séjour des morts, séjour des morts, verset 18, ne prévaudront pas au point contre elles. Cette phrase, regardez-moi, c'est le Christ qui dit. Si personne ne peut fermer cette porte que Dieu ouvre devant nous, et que vous avez une part à jouer dans cette mission, pourquoi vous décourager? Pourquoi abandonner? Ensuite, le Christ est encore allé un peu plus loin dans cette promesse. Tout au long de la Bible, surtout des évangiles, vous verrez que le Dieu suprême qui nous a créés nous dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Les psaumes en sont remplis. Le Christ a dit, vous n'êtes jamais seul. Je paraphrase, il dit, Dieu est toujours avec vous. Quand on a dit au Christ qui était seul, il dit, non, il dit, je ne suis jamais seul. Dieu, mon Père, est avec moi. Voilà l'attitude de réussir. Ce sont des clés principales pour que vous puissiez, vous, être encouragé et marcher de l'avant. Je répète, mes frères, mes amis, il y aura toujours des obstacles. Vous ne pourrez jamais avoir une rose sans épines. Vous ne pourrez jamais réussir sans entraves. Ce n'est pas possible. Mais ce sont ces entraves, ces épines qui nous donnent la force d'aller de l'avant et de savoir que c'est Dieu, en fin de compte, qui fait tout. J'ai vu dans ma vie tellement d'amis qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Je vois des amis qui sont toujours dans le doute. Suis-je vraiment appelé par Dieu? Voyez-vous, déjà la question n'a pas de valeur. Vous êtes dans l'Église, vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été appelé. Pourquoi douter? Et une fois que vous avez cette détermination, pourquoi douter si vous pouvez réussir ou non? J'ai vu des gens qui disent, je ne sais pas si vraiment je pourrais arriver au but. Mais si vous arriverez au but, seulement, laissez ces doutes de côté. Et encore, faites votre travail, quel qu'il soit. Grand ou petit, ça n'a aucune importance. Commencez-vous à comprendre. Quelle est la mission de l'Église? Autrement dit, quelle est votre mission? Je viens de dire, c'est proclamer l'Évangile en partie, mais c'est pas tout. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 4, le Christ a confié à son Église une mission. Et dans cette mission, nous avons tous notre part. Il a parlé à ses apôtres. Évidemment, les apôtres avaient une tâche différente un peu de la nôtre, en quelque sorte. Autrement dit, nous n'avons pas tous le même travail, la même tâche, le même devoir au sein de l'Église. Ça, vous comprenez? Nous avons ceux qui prêchent, ceux qui écrivent, ceux qui enseignent. Et nous avons ceux qui servent, ainsi de suite. Donc, quel que soit le travail, nous devons toujours avoir en tête le succès, la réussite. Ne pensez jamais à une défaite. Certes, nous pouvons parfois tomber, trébucher. C'est humain. Mais lorsque vous trébuchez, levez-vous. Regardez-moi comme un petit enfant, un bébé. Avez-vous jamais remarqué les premiers pas qu'un bébé fait? C'est très intéressant. Vous savez, d'abord, il tâche de se lever, de se mettre sur ses pieds, il ne peut pas. Ensuite, lorsqu'il se met sur ses pieds, il tombe. Ensuite, il fait un effort pour se relever à nouveau. De même, lorsqu'il commence à marcher, il fait deux pas, puis il tombe. Il se relève, et il va de l'avant, il fait peut-être trois pas, il retombe, et il recommence. Voilà. C'est cette attitude que nous devons avoir dans notre tâche. Nous pouvons tomber, mais relevons-nous et continuons. Alors, une fois que vous avez ceci, vous pouvez comprendre que dans l'Église de Dieu, dont vous êtes membre, vous avez une tâche, et cette tâche consiste toujours à voir le succès devant vous et non pas l'échec. Ne jamais abandonner. Dans Matthieu chapitre 4, disais-je, regardez voir la mission que le Christ a confiée à son Église. Verset 23, Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, c'est-à-dire les églises, prêchant la bonne nouvelle du royaume, c'est notre tâche. Nous prêchons la bonne nouvelle, chacun a sa tâche dans cette prédication, mais prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, et toute infirmité parmi le peuple. Et ensuite, regardez voir, sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait donc tous ceux qui souffraient de maladies, il les guérissait, et il chassait les démons. Alors, le Christ a confié à ses disciples une mission, une triple mission. Proclamer l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons. Ceci est toujours vrai. Alors, les démons seront toujours là pour vous embêter, pour ainsi dire, pour vous faire échouer, pour tâcher de vous convaincre que vous ne pouvez pas réussir. Mais la force divine, c'est que, avec cette puissance que vous avez en vous, grâce à Dieu, vous pouvez réussir. Dieu est beaucoup plus fort que n'importe quel démon ou Satan lui-même. Alors, reprenons à cette triple mission. Quelle est la clé dans cette triple mission pour réussir? Que faire pour que nous puissions proclamer l'Évangile? Eh bien, aller de l'avant, malgré et contre tout. Nous devons aller de l'avant, même si les portes sont fermées, si Dieu nous permet, si Dieu nous donne la force, les portes s'ouvriront. Ensuite, pour guérir les malades. D'abord, avant que les malades soient guéris, guérissons-nous nous-mêmes. Lorsque vous êtes malade, quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous êtes découragé? Vous dites, oh non, eh bien c'est fini. Ou alors vous dites, non, je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu me guérira, et vous faites votre part. Nous avons tous une part à faire lorsque nous sommes malades. J'entre pas dans les détails aujourd'hui, ici. Mais le fait est que ce que nous pouvons faire humainement parlant, qui ne serait pas contre la volonté de Dieu, nous devons le faire. Mais c'est Dieu qui guérit. Faisons notre part en nous faisant oindre, comme la Bible dit dans Jacques chapitre 5, et ensuite, ayons l'esprit positif. Ne pas parler à un échec lorsque vous êtes malade. Ne pas penser, mettons, d'une rechute lorsque vous avez été oindre. C'est là le problème. Certaines personnes que j'ai ointes, par exemple, après l'onction, ont toujours des doutes tant de l'esprit. Ce genre de choses, mes frères et mes sœurs, vous mènent sur la voie de l'échec et non pas du succès. Une fois que vous avez fait votre part, allez-y de l'avant avec la détermination que vous pouvez réussir. Ce sont des choses simples, si vous voulez, simples ou aussi en même temps compliquées. Mais le fait est que c'est indispensable. Indispensable pour la réussite. Alors, quelle est la clé de la réussite dans tout ce que vous faites? C'est intéressant, lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez voir des gens qui, eux, ont réussi dans leur vie et d'autres qui ont échoué. Mais vous pouvez aussi voir une chose qui est extrêmement importante, c'est que dans chaque groupe, ceux qui réussissent, ceux qui échouent, il y a toujours une attitude. Ayez toujours l'attitude du Christ qui a dit « Je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. » Et votre Père céleste, c'est lui qui vous a créé. Il peut faire toutes choses. Il est capable de changer toutes choses. Une fois que vous comprenez ceci, mes frères et mes sœurs, vous verrez que la clé de la réussite, du succès, c'est, je répète, de ne jamais abandonner. Réfléchissez. Pour autant que vous n'avez pas abandonné, il y a toujours la possibilité de réussir. Mais dès que vous avez abandonné, c'est fini. La même chose dans une course. Dès que vous arrêtez à participer à cette course, vous avez échoué. Mais si vous continuez à avancer dans la course, même que vous soyez, mettons, à l'arrière-plan ou bien le dernier, vous avez encore une chance pour réussir. C'est la même chose en ce qui concerne la vie chrétienne. La mission que l'Église de Dieu a aujourd'hui a été confiée, a été donnée, ou bien je dirais même précisée dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Le Christ parle maintenant aux sept phases de l'Église de Dieu. À chacune des phases, le Christ donne la clé du succès. À chacune des phases, je ne vais pas prendre maintenant le livre ici, j'ai déjà fait par le passé, Apocalypse 2, Apocalypse 3, les sept églises de Dieu sont mentionnées. Le Christ montre à chaque église les points difficiles ou les difficultés, et dit « change, repens-toi, sors-en ». Et ensuite, il y a une promesse qui est faite à chaque église. Les sept églises de Dieu, les sept phases, ont toutes les mêmes recommandations. Vous savez laquelle c'est? Laissez-moi au moins en citer pour l'une, car ça vous explique ce que je suis en train de vous dire. Prenez par exemple, ça n'a pas d'importance, prenons chapitre 2, Apocalypse verset 7. Il parle à l'église d'Éphèse. Comme aux autres églises, regardez voir ce qu'il dit. « À celui qui vaincra, voilà le mot, vaincra, je donnerai, etc. » Tout au long de ces sept églises, Dieu dit « celui qui vaincra, celui qui vaincra ». Eh bien, c'est quoi vaincre? Vaincre, c'est aller de l'avant, ne jamais abandonner. Vous ne pouvez pas vaincre si vous avez déjà abandonné la course. Donc, nous devons toujours être dans la course, quelle que soit notre position. Le dernier ou le premier ou au milieu, ça n'a pas d'importance. À celui qui vaincra, la récompense viendra. Ayez ça en tête, voyez-vous, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes prêt à abandonner, lorsque vous n'avez plus rien pour vivre, entre guillemets. Et il y en a des gens, je sais. Des gens qui sont pauvres, des gens qui sont malades, des gens qui sont trop vieux, des gens qui n'ont rien en ce bas monde. Ils ont, autrement disant, tout pour se décourager, mais d'autre part, rappelez-vous, que vous soyez de ce groupe ou non, rappelez-vous, celui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là le but. Vous êtes venu pour ça, pour arriver au but. C'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de vous décourager. Mes frères et mes sœurs, ce serment est très important, car je vois de plus en plus de gens, que ce soit dans l'église ou non, ou autour de moi, qui se découragent. Ils voient le mal, et il y a du mal en ce moment, car Satan est encore le dieu de ce siècle. Ils voient la corruption, les souffrances, les maladies, la perversion sexuelle, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui se découragent. La jeunesse aujourd'hui est en quelque sorte un petit peu perdue parce qu'elle ne sait pas vers qui se tourner, car les adultes ne savent pas comprendre la jeunesse. Eh bien, la jeunesse peut et doit se tourner vers Dieu. Et c'est Dieu qui se trouve dans la Bible. Alors vous verrez la différence. Les adultes devraient se tourner vers Dieu en étudiant la Bible et voir quelles sont leurs responsabilités. Voilà les clés du succès. Que vous soyez jeune ou adulte, voilà, je répète, voilà la façon de réussir. Car le but final vaut la peine. Et le but final mérite tous les sacrifices. Vous parlez de sacrifices, regardez voir la vie de Job. C'est intéressant, la vie de Job. Il a souffert. À un moment donné, humainement parlant, il n'était plus possible de supporter les souffrances. Il a tenu le coup. En fin de compte, il a été béni beaucoup plus qu'auparavant. Il a eu des enfants, il a eu des richesses, il a retrouvé sa santé, et tout ce qui était ajouté à sa vie était beaucoup plus important, plus grande que ce qu'il y avait auparavant. Et auparavant, il était très riche, très important, très, très célèbre. C'est en quelque sorte votre vie et ma vie. Aujourd'hui, nous avons, quel que soit beaucoup ou peu, ça n'a pas d'importance, nous pourrons tout perdre. Mais ce que nous perdons, ce n'est rien à comparer à ce que nous allons gagner dans le royaume de Dieu. Si vous avez cette détermination, mes frères et mes sœurs, rien ne doit vous décourager. Vous êtes sur la voie du succès. Et cette attitude, je répète, doit être dans tout ce que vous faites, dans le travail que vous faites. Que ce soit dans une usine, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une famille, que ce soit à l'école. Allez de l'avant comme si il n'y a aucune raison que vous échouiez. Commencez-vous à comprendre. Regardez voir Hébreux chapitre 11. Je ne vais pas entrer dans ce chapitre. Mais regardez voir Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de ceux qui n'ont pas abandonné. Chacun de ces héros mentionnés dans ce chapitre avait un problème, avait des difficultés, avait un défi à relever. Chacun d'eux a tenu le coup jusqu'au bout. Et pourtant, ils n'avaient pas reçu de leur vivant la récompense promise. Mais ils la recevront. C'est votre histoire, c'est mon histoire. Eux, ils n'ont pas abandonné. Et Dieu leur promet, laissez-moi prendre Hébreux 11, au moins ce petit verset-là, car ça nous encourage. Je vous dis, ce matin, je parle de cela, c'est parce que je vois dernièrement des amis qui sont malades. Je vois dernièrement des amis qui sont fatigués de vivre. Ou bien n'ont pas vraiment la détermination d'aller de l'avant. Voilà pourquoi je parle un peu avec plus de force. Je pense à eux, je pense à vous, je pense à moi. Nous avons tous le même problème. Donc, je vous parle parce que, voyez-vous, nous avons les exemples devant nous des autres qui ont réussi. Des exemples de ceux qui n'ont pas abandonné. Des exemples de ceux qui croyaient en Dieu et qui croyaient en quelque sorte qu'ils savaient que ce que Dieu a promis va se réussir. Voilà, Hébreux 11, il parle de ces héros. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus d'étude et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Comprenez-vous cette phrase? C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Nous sommes voyageurs en quelque sorte, car notre mission c'est de proclamer l'évangile, être dans l'église de Dieu, vivre comme Dieu veut que nous vivions et aller de l'avant avec cette détermination. Nous sommes en quelque sorte mis à part. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non, parce que nous avons une tâche, un travail à accomplir. Alors, revenons encore à Matthieu 24, à la mission de l'Église, verset 14. Que savez-vous ce qui précède le verset 14? Notez-le. C'est quelque chose qui donne justement la clé de ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que lorsque le Christ a dit que nous devons proclamer l'évangile avant que la fin n'arrive, il a mis une autre condition encore. Une condition très simple. Voyez-vous, il a défini la mission de l'Église. Au verset 14, il dit, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume, le royaume, c'est ce dont nous parlons. Le royaume qui est le but final de chaque individu qui réussit, et non pas qui abandonne. sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, pas pour convertir, alors viendra la fin. Mais avant ça, quelle est la condition que le Christ a posée? Quelle est la condition que le Christ a posée à vous lorsqu'il vous a appelé? Quelle est votre mission? Je viens de dire les sept églises avaient tous une recommandation, celui qui vaincra. Et à vous et à moi, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vaincra. Regardez-le. Verset 13, Matthieu 24. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est vaincre. C'est ça. Vous ne pouvez pas persévérer si vous abandonnez. Donc, les deux conditions principales pour lesquelles nous sommes appelés, d'abord, pour accomplir la mission que le Christ nous a confiée, quelle que soit notre part dans cette mission, et ensuite, persévérer jusqu'à la fin. N'abandonnez jamais. Persévérer jusqu'à la fin. Je sais, je répète, ce n'est pas ne pas voir le danger devant nous, ou bien le malheur. Ce n'est pas nier la réalité. Non, c'est pas ça. Ces choses existent. Elles sont réelles. Mais ce qui est important, c'est que Dieu existe aussi, et Dieu est réel. Et les promesses divines sont réelles. Les promesses divines sont outre les difficultés présentes. Une fois que vous avez ça, vous commencez à comprendre ce qu'est l'échec et ce qu'est le succès. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, vous avez un exemple frappant et aussi une recommandation frappante. Je parle maintenant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme qui a beaucoup souffert. Et il a souffert de façon à ce que nous pouvons nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis à l'apôtre Paul de souffrir autant? Vous savez, j'ai entendu cette question souvent. Vous parlez de l'Église, vous parlez de l'apôtre Paul, vous parlez de saints, mais pourquoi Dieu a-t-il permis à ses serviteurs de souffrir? La réponse est simple. Posez la question à Dieu, si vous voulez. C'est que voyez-vous, Dieu sait ce qu'il fait. C'est par la souffrance que ces gens, ses disciples, vont arriver au succès final. Et c'est la même chose à vous et à moi. L'apôtre Paul, disais-je, a énormément souffert. Quelle a été son attitude? Alors, si vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, et entre autres des deux ou trois versets que je vais citer, si vous pouvez avoir cette attitude, mes frères et mes sœurs, vous serez sur la voie du succès en permanence. Je dis en permanence parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Le succès n'est pas quelque chose qu'on peut dire, voilà, j'ai réussi, non. Le succès est persévérer jusqu'à la fin. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4. Ici, il est question de Dieu d'abord dans ce chapitre-là, et aussi de Satan, du diable, qui est encore toujours le Dieu de ce siècle. Ensuite, l'apôtre Paul, regardez voir ce qu'il dit au verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons, dit-il, ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes les vases de terre. Il parle du corps humain, de votre temple, entre guillemets. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Autrement dit, le succès, c'est attribué à Dieu et non pas à nous. La force nous vient de Dieu, non pas de nous-mêmes. Nous devons faire notre part. Regardez comment l'apôtre Paul définit. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Prenez le temps de réfléchir à cela. Nous sommes tous pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Regardez cette phrase. Certains d'entre nous, nous sommes dans la détresse, mais non pas désespéré. Comprenez-vous la façon de voir les choses? Persécuté, mais non abandonné. Êtes-vous persécuté dans votre travail, par vos amis, par vos ennemis? Peut-être, mais Dieu ne vous abandonne jamais. abattu mais non pas perdu. Regardez, c'est fantastique. Comme description, c'est fantastique. Parfois, vous êtes abattu. Certains d'entre nous se sentent perdus. Dès ce moment-là, vous êtes sur le chemin de l'échec. Mais vous êtes abattu peut-être, et vous avez cette détermination, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur la voie du succès. C'est difficile, c'est pas toujours facile, je sais, je suis dans la même condition que vous. Mais nous devons faire ces efforts nécessaires pour croire, comme l'apôtre Paul nous dit de croire, car ce que l'apôtre Paul dit est correct, est juste. Et comment vous pouvez arriver à ça, ayant toujours en tête notre mission d'amour du Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous savez, lorsque je lis des choses pareilles, je me réjouis. Ça me donne, comment dirais-je, la détermination d'aller de l'avant, malgré les problèmes que nous avons, que j'ai. Nous avons tous des problèmes. Mais voilà l'attitude. Voilà l'attitude qui nous mène au succès. Et nous sommes nés, je répète, pour réussir. Et non pas pour perdre, pour échouer. L'autre exemple que je voudrais vous donner, surtout dans les écrits de Paul, c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Il parle des temps de la fin. Il parle des conditions du salut. Et regardez autour de vous, nous vivons dans les temps de la fin. Nous voyons toutes sortes de raisons pour lesquelles jetez les bras en l'air, dites, je n'en peux plus. Mais ça, c'est ce que Satan voudrait que nous fassions. Dieu ne veut pas que nous disions, non, je n'en peux plus. L'apôtre Paul, qui a énormément de succès, regardez comme il dit, comme il décrit sa situation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Mais dit-il, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Regardez voir ça. À tous égards. Par beaucoup de patience dans les tribulations. Voilà les clés du succès. Beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, autrement dit, couvre toutes les souffrances, dans les jeûnes, par la purité, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole vivante, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Qu'est-ce qu'il dit? Dans toutes ces conditions, dit-il, prenez les armes de Dieu. Prenez la façon de vous défendre comme Dieu veut que vous vous défendiez. Et alors, vous serez sur le chemin du succès. Commencez-vous à comprendre la différence entre ce que le monde fait d'une façon générale et ce que nous faisons ou nous devons faire. La persévérance est la clé du succès. La persévérance signifie ne jamais abandonner. La persévérance signifie se diriger avec certaineté, détermination vers le succès. L'apôtre Paul a écrit dans Galates, chapitre 5, le fruit de l'Esprit de Dieu. Vous savez que la persévérance en fait partie. Galates, chapitre 5. Notez-le, si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, si vous avez été baptisé, si vous avez vraiment, vous vous êtes repenti de vos péchés, dans ce cas-là, après l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, vous devez avoir en vous un peu plus d'amour, de bonté, de gentillesse, de patience. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Oui, oui. Voilà, il dit, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Et il dit la persévérance, la patience. Voilà ce que nous devons faire, nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Et pourtant, je répète, Satan est toujours là pour vous faire décourager, pour vous pousser un peu loin, disant, écoute, tu ne peux pas arriver. Chaque fois que quelqu'un vous dit, vous ne réussirez pas, dites-vous à vous-même, oui, je réussirai, si le projet que vous avez entrepris est acceptable aux yeux de Dieu. Je répète, quel que soit le projet que vous avez en tête, si c'est acceptable à Dieu, allez de l'avant. Ne vous découragez pas. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des épreuves. Et regardez voir ce que, à nouveau, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsque nous enseignions au collège il y a quelques années, nous disions aux étudiants du collège, écoutez, prenez le temps de lire la biographie de ceux qui ont réussi. Il y a pas mal de gens en ce bon monde qui ont réussi malgré et contre tout. Il y a des gens qui ont, je dirais, fait face à des situations incroyables. Des gens qui peut-être n'avaient même pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Mais Dieu les a encouragés, certes. Ces gens-là ont réussi malgré et contre tout. Alors, si eux, ils peuvent réussir, pourquoi pas nous? Quelles sont les raisons pour lesquelles eux, ils seraient plus bénis que vous, alors que vous, vous êtes appelés par Dieu? Voyez-vous, je parle maintenant humainement parlant, autrement dit, pourquoi Dieu ne vous donnerait-il pas cette force que eux, ils ont? Aucune raison. Vous avez cette force, mais vous devez vous en rendre compte et travailler en conséquence. Dans votre esprit, vous ne pensez jamais à l'échec. Dans votre esprit, pensez toujours à la réussite. En faisant votre part, vous aurez des hauts et des bas, je répète. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul savait parce qu'il est passé par là. Il a fait la même expérience que vous et moi, nous faisons. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. Aucune tentation, je dirais aucune épreuve, aucune difficulté, aucune souffrance. Je paraphrase. Autrement dit, c'est ça. Aucune souffrance, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Autrement dit, tous passent par eux. Ceux qui ont réussi, vous disais-je, ont eu ces mêmes problèmes que vous et moi. Et pourtant, ils ont réussi. Malgré tout, ils sont quand même arrivés au but. Si eux, ils sont arrivés au but, pourquoi nous n'arriverions-nous pas à ce but que Dieu a tracé devant nous? Il dit, une tête humaine. Et Dieu qui est, voilà votre fils clé, fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est une promesse. Si j'ai cette promesse, pourquoi dirais-je, je n'en peux plus? Si je dis je n'en peux plus, c'est que je rends Dieu menteur. Oui, parfois vous direz c'est tellement difficile, je sais. C'est très, 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 très difficile. Mais Dieu a dit que il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais dit-il, avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Wow. Vous savez ce qui est difficile dans ce que nous appelons le christianisme? C'est tellement facile et pourtant c'est tellement difficile. Facile car c'est plein, c'est clair et nous devrions y croire. C'est difficile parce que nous ne pouvons pas y croire parce que nous vivons dans un monde où Satan est encore autour de nous. Les autres se découragent, nous nous décourageons. Et pourtant si nous pouvions nous avoir les yeux sur le Christ et croire ce que l'apôtre Paul dit ici, nous aurions une vie tout à fait différente. Quelles que soient vos circonstances, vous auriez le sourire aux lèvres, la joie dans le cœur. Et si vous avez le sourire aux lèvres, la joie dans le cœur, vous êtes sur le chemin du succès. Encore un autre secret. Pour être sur le chemin du succès, soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez. Ne vous plaignez pas. Acceptez ce que Dieu vous donne. Et ensuite, encore une autre clé pour être sur le chemin du succès, ne jugez personne. Ne critiquez personne. Occupez-vous de vos affaires. Vous verrez comme les choses changeront. À nos ancêtres, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il faut qu'ils cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Notez-le, Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est réel. Tout ça nous met sur le chemin du succès. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Je cherche, voilà. Dieu nous commande de le chercher de tout notre cœur. Il dit, l'Éternel vous amènera, dit-il, et là, vous servirez des dieux ouvres, des dieux ouvrages de leurs mains. Donc, autrement dit, il parle maintenant de ceux du monde. Mais dit-il, vous, tu chercheras, dit-il, verset 29, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, vous ne abandonnerez jamais. Vous ne serez jamais découragé. Vous serez toujours capable de vous relever et de continuer à marcher, sachant que Dieu est avec vous. Je vous disais il y a quelques instants que les psaumes sont pleins de promesses, de telles promesses. Et c'est vrai. Voilà pourquoi beaucoup de gens lisent le livre des psaumes en tant qu'épreuve. C'est bien, il y a pas mal à ça, seulement il y a plus que ça. Les psaumes contiennent beaucoup plus que des paroles d'encouragement. Les psaumes sont aussi en même temps des prophéties. Les psaumes nous disent le projet de Dieu, le caractère divin, comment lui plaire, et en même temps, les psaumes nous donnent l'encouragement dont nous avons besoin. Prenez par exemple, juste un ou deux exemples, il y en a tellement parce que je ne peux pas vraiment vous les lire tous, mais regardez voir les paroles de l'apôtre de David dans Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9, à titre d'exemple, parmi tant d'autres, verset 8. L'Éternel règne à jamais. Verset 9. Il juge le monde avec justice. Verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Je saute les versets justement pour vous donner une idée. Ceux qui, verset 11, ceux qui connaissent ton nom, se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Croyez-vous à cela? Vous êtes chrétien, prouvez-le par la mise en pratique de ces commandements. Vous pensez être dans l'Église de Dieu, mettez en pratique ces commandements. Au moment des épreuves, revenez à ça, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel, ceux qui te cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Et vous, là, alors, vous avez une force, une assurance fantastique. Et vous savez que Dieu entend ce qu'il dit. Dieu ne ment pas. Il y a tellement d'exemples dans les psaumes, je vous dis, c'est presque difficile à faire une marque, une séparation, car chaque verset, déjà, est un encouragement. Lorsque nous étions enfants, nous avions une attitude différente envers toute chose. Un enfant, vous savez, croit facilement à ce qu'il entend. Ensuite, un enfant est toujours capable de changer d'idée. Un enfant, en quelque sorte, est frivole, pour ainsi dire. Mais un enfant a l'esprit malléable. Et la même chose avec l'Église de Dieu. Lorsque Dieu vous a appelé, vous étiez en quelque sorte un enfant et vous ne saviez pas exactement de quel côté vous dirigez. Et par les sermons que vous écoutiez, par les ouvrages écrits de la Bible, ou bien surtout de la Bible que vous lisiez, vous vous formiez davantage afin d'être des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Alors, certains d'entre nous dans l'Église de Dieu Nous sommes toujours encore enfants. Nous n'avons pas grandi. Si, face à l'épreuve, vous abandonnez, vous êtes toujours au lait, comme l'apôtre Paul dit. Vous n'avez pas vraiment réussi à vous débarrasser de ces souffrances humaines qui ne doivent pas vous décourager. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'amour de Dieu, il parle justement de l'attitude d'un enfant et ensuite de l'attitude d'une personne qui est dans l'église de Dieu. C'est la même chose. Il parle, il se marque de dire ce que c'est que l'amour. Un enfant, un petit enfant, ne comprend pas, ne sait pas ce que c'est que l'amour. Autrement dit, pour lui, il prend l'amour d'une façon égoïste. De la même façon, certains d'entre nous qui sommes dans l'église, bien qu'adultes, nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Nous prenons cet amour de Dieu de façon égoïste. Dieu aime tout le monde, même vos ennemis. Et il veut que vous aimiez tout le monde, y compris vos ennemis. Dieu aide ceux qui se tournent vers Dieu, vers lui. Vous devez avoir cette attitude. Ceux qui se tournent vers droit, vers vous, si vous pouvez faire quelque chose pour eux, si c'est possible, faites-le. Et Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, dit-il, je parlais comme un enfant. » Lorsque vous êtes dans l'église, vous étiez enfant et vous parliez comme un enfant. Et dit-il, « Lorsque je suis devenu homme, maintenant, voyez-vous, je parle des deux côtés. Maintenant que vous êtes adulte, vous avez une façon différente de voir les choses. Et ça devient beaucoup plus sérieux. De même dans l'église, maintenant que vous avez un petit peu grandi, cru, pour ainsi dire, dans ce cas-là, vous devez avoir une attitude différente. Je fais disparaître, dit-il, ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, dit-il, nous voyons au moyen d'un miroir. Et c'est vrai. Même, vous savez, vous direz à moi, vous me direz, est-ce que vous connaissez la Bible? Je dirais oui et non. Je connais de la Bible, j'ai lu la Bible plusieurs fois, je comprends l'essence de la Bible, mais chaque verset, je ne peux pas dire exactement, je comprends le sens profond, parce que voyez-vous, il y a tellement de choses dans la Bible que Dieu en temps utile me révélera. C'est ce que le Christ a dit à l'apôtre Pierre. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Le secret, mes frères et mes sœurs, c'est de faire ce que Dieu dit, même si vous ne le comprenez pas. Je répète, le succès pour réussir dans la vie chrétienne, de faire ce que Dieu vous dit, même si vous ne comprenez pas pourquoi. La discipline précède la compréhension. Ça, c'est important. Avoir la discipline d'obéissance envers Dieu, avant même de comprendre pourquoi. Dans ce cas-là, vous serez adulte. Et il dit, aujourd'hui, dit-il, nous voyons les choses un peu comme dans un miroir. Mais, dit-il, plus tard, lorsque le Christ viendra, je connaîtrai comme j'ai été connu. Il parle ici de la fin, lorsque le Christ viendra, lorsque nous serons transformés en esprit. Alors, continuons. C'est un chapitre important. Je veux absolument que nous puissions tous comprendre l'importance de ne jamais abandonner. Je parle d'échec et de succès. Regardez autour de vous. Quels sont vos amis, ceux qui vous sont proches? Sont-ce des gens qui vous encouragent ou bien qui vous découragent? Sont-ce des gens qui ont besoin de vous, ou bien vous-même, vous avez besoin d'eux? Quels sont les amis autour de vous qui peuvent vraiment vous donner l'envie de vivre? Ou bien, quels sont les amis autour de vous à qui vous inspirez l'envie de vivre? Voilà la différence. Vous rappelez mon sermon, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tâchez d'aider les autres. Tâchez d'être un encouragement aux autres. Ce faisant, vous serez encouragé vous-même. Vous ne pouvez jamais vraiment être découragé lorsque vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un, de lui donner courage, de l'aider à réussir, de l'aider à ne pas abandonner. C'est la même chose. Donc, voilà pourquoi, si vous faites ceci, si vous aidez les autres, ce faisant, vous vous aiderez vous-même. Ça sera donc une double, je dirais, recommandation, une double raison pour pouvoir faire ce que Dieu vous dit. Psaume 37. Psaume 37. Voilà que je reviens au psaume. Et c'est tellement beau parce que souvent, je répète, si vous êtes abattu, revenez à la Bible. Revenez au psaume. Lisez là, cette Bible, à genoux s'il le faut. Mais surtout, ne lisez pas la Bible. Étudiez la Bible. Méditez la Bible. Prenez un verset, comme je viens maintenant de vous montrer le verset, prenez le temps de méditer, de tourner ce verset dans votre esprit, d'adapter à vos circonstances, d'adapter à vos problèmes à vous-même. Et vous verrez comment la solution viendra. Psaume 37, je ne sais pas où commencer le 37 parce qu'il y a tellement de versets, mais prenons peut-être juste... Franchement, je ne sais pas où. Verset 3, par exemple. Psaume 37, verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Voilà. Alors, prenez le temps à méditer. Que signifie « Confie-toi en l'Éternel » ? Vous faites confiance en toi, en lui. Vous savez que Dieu est là. Donc, une fois que vous avez mis, comme le Christ a dit, votre fardeau sur les épaules du Christ, laissez votre fardeau là, sur les épaules du Christ. Malheureusement, la plupart du temps, lorsque nous prions, lorsque nous mettons nos fardeaux sur les épaules du Christ, en cessant de prier, nous reprenons le fardeau et nous continuons notre chemin. Voilà le problème. Le Christ a dit, laissez-moi porter votre fardeau. Vous le faites dans la prière, ensuite vous reprenez votre fardeau. Ça, ce n'est pas se confier à Dieu. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Verset 4, fais de l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Avec cette phrase, avec cette recommandation, vous ne pouvez pas abandonner. C'est pas possible. Vous êtes sur le chemin du salut. Vous êtes sur le chemin du succès. Verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ne te plains pas. N'abandonne pas. Reçois reconnaissant pour tout ce que tu as. Et en fin de compte, tu réussiras. Et verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Voilà maintenant aussi votre attitude, comment elle doit être. Je ne sais pas où m'arrêter, je dis avec ce verset 37, parce que le psaume 37, c'est tellement, il y a tellement de versets qui nous sont encourageants. Mais prenons verset 10 et continuons. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Ici, David parle de ce qui va se passer vers la fin. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens. Je répète, ne soyez pas critiques. Mais il y a quand même pas mal de gens vous regardent et vous disent, mais pourquoi ces gens ont-ils réussi? Laissez-les. C'est pas votre affaire. Fâchez-vous même de réussir, surtout de réussir aux yeux de Dieu. D'avoir du succès aux yeux de Dieu. Les autres, c'est leur affaire. Car chacun de nous sera jugé d'après ce que nous faisons, d'après ce que nous avons comme attitude. Les gens me demandent parfois me posent des questions. Et franchement, humainement parlant, je ne sais pas comment répondre. J'ai la compréhension assez bonne de la Bible. Mais je ne comprends pas moi-même les technicalités de la science, de la technologie. Je ne comprends pas. Je ne suis pas scientiste, pour ainsi dire. Alors, par exemple, j'étais enseignant dans des écoles, je sais. Mais on vous pose parfois des questions, et vous, en tant que professeur, vous ne connaissez pas les réponses. Ne pas connaître la réponse ne signifie pas que la chose n'existe pas. Laissez-moi expliquer. Aujourd'hui, vous entendez des gens parler de l'évolution. Eh bien, Je ne sais pas comment Dieu a formé cette terre, mais je sais que l'évolution n'est pas conforme à la Bible. Alors, j'ai eu des gens qui me disent, alors expliquez comment Dieu a formé les choses. Vous savez, ma réponse, je dis, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu a fait, comme il le dit. Mais le comment, je ne sais pas. Tandis que dans le monde, les gens vous expliquent comment l'évolution a eu lieu, ce qui est tout à fait ridicule. Hébreux chapitre 11. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Si vous ne savez pas quelque chose, mais si c'est dans la Bible, si par exemple, on me demande comment est-ce que Dieu a formé les cieux et la terre, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais que Dieu là, les a fait. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Vous savez, pour un scientiste, ça n'a pas de sens. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ça a beaucoup de sens. Ça explique. Si Dieu a dit qu'il a créé, Dieu a créé. Et c'est tout ce qui... C'est vrai. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé par sa parole. En sorte que ce qu'on voit, ou bien qu'on ne voit pas, a été fait de des choses visibles. Voilà comment je réponds et comment je suis satisfait de cette solution. Alors, tâchons maintenant de résumer le tout. Où en sommes-nous? Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de tentations. Nous sommes dans un monde où Satan voudrait absolument nous décourager. Et en même temps, nous sommes dans un monde où Dieu veut que nous puissions réussir. Il y a d'une part le chemin du succès, d'autre part le chemin de l'échec. Dieu fera tout pour que nous puissions marcher dans le chemin de la réussite, et Satan nous tentera comme il l'a tenté Adam et Ève, ainsi de suite. À vous le choix. Ça, c'est maintenant votre part. C'est ça la différence. Dieu a mis devant nous tous les deux chemins. Il a permis à Satan de nous tenter. Beaucoup d'entre nous échouent parce qu'ils suivent la voie du Satan, ou bien la voie de la chair humaine. D'autre part, si nous suivions la voie que Dieu a tracée devant nous, ça serait tout à fait différent. Jacques, chapitre 4, non, chapitre 1 plutôt. Encore une fois, Jacques, qui était le frère du Christ, nous donne l'encouragement nécessaire pour ne jamais abandonner face aux problèmes. Regardez ce qu'il dit, verset 2, Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, Puis allez voir ça. Comment est-ce que je peux avoir de joie complète lorsque je fais face à diverses épreuves? Et pourtant ce qu'il dit, regardez, dit-il, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Y croyez-vous? Êtes-vous d'accord? Voilà le chemin du succès. Vous êtes exposés, je suis exposé à diverses épreuves. Parfois, nous sommes tellement exposés que nous voulons abandonner. Mais Jacques dit non. La Bible dit non. Dieu dit non. Ne faites pas cela. Et pourquoi passons-nous par des épreuves? Il dit, sachant, voyez-vous, lorsque vous avez des épreuves, plutôt que abandonner, demandez-vous pourquoi. Pourquoi ai-je ces épreuves? La réponse, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est quoi la patience? C'est la persévérance. La patience n'abandonne pas, la persévérance n'abandonne jamais. Donc, ces épreuves nous mettent sur le chemin de la persévérance. Et il faut que, dit-il, la passe verset 4, la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Autrement dit, vous passiez par cette épreuve afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Je vous ai dit il y a quelques instants, ne vous contentez pas de lire la Bible étudiez la Bible, méditez la Bible. Prenez parfois un ou deux versets, puis passez tout le temps nécessaire afin que ça pénètre dans votre esprit, dans votre cœur. Ce faisant, vous ne permettrez jamais à Satan le diable ou à vos sentiments charnels de vous décourager. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous, nous sommes nés pour réussir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous échouions. Aucun homme sur cette terre n'a été créé pour être perdu. Ça, c'est Satan le diable qui prêche le contraire. Nous sommes tous, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions un jour être dans son royaume. Dieu veut que nous puissions un jour, vraiment, arriver au but pour lequel nous avons été créés. En somme, il y a devant nous tous, qui que nous soyons, enfants ou adultes, crédules ou incrédules, chrétiens ou païens, nous avons tous devant nous un choix. Ou bien prendre le chemin qui mène au succès, et Dieu nous le montre dans la Bible, clairement, ou bien prendre le chemin qui mène à l'échec. Suivre le chemin que Dieu met devant nous, en tant que succès, n'est pas toujours facile. Nous aurons des épreuves, des hauts et des bas, mais comme Jacques dit, tout ça va nous amener à persévérer davantage, à avoir davantage de patience. Ou alors, prendre le chemin de la chair humaine ou de Satan, qui semble être très facile, qui nous excuse, qui nous donne raison. Il est facile de critiquer les autres. Il est facile de dire que les autres sont bénis et que nous ne le sommes pas. Il est facile de voir les bénédictions des autres et d'être aveugle devant tout ce que nous avons. Je répète, l'un des chemins, c'est le succès, d'être reconnaissant, de remercier Dieu, de ne pas critiquer. L'autre, c'est le chemin de Satan qui vous fait voir l'injustice de Dieu. C'est le chemin de la faillite, d'échec. Alors, où en êtes-vous? Où en suis-je? Ma tâche est de vous aider à comprendre. Et je compte sur Dieu chaque jour moi-même, afin que Dieu me donne cette force dont j'ai besoin pour pouvoir non pas seulement vous expliquer, aussi me convaincre nous-mêmes, car ce que je vous dis, c'est réel, c'est correct, c'est juste. C'est dans la Bible. Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vous dis, n'abandonnez jamais. Jamais.